Amer Fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Nous rencontrons aujourd'hui Nina Canal. Nina Canal est musicienne et, comme elle dit elle-même, energy artist. Elle est à la fois sud-africaine et anglaise et a établi sa véritable personnalité créative à la fin des années 70 à New York, au sein de la célèbre scène multidisciplinaire post-punk. Elle joue de la guitare, de la batterie et fait du chant dans différents projets, dont le groupe Hat, qui a sorti des disques sur Blast First, Mute et Out Records. Plus récemment, elle a joué dans le projet When I Stayed, en 2022, et puis de nouveau en 2024, et est cofondatrice du projet Dragon Files, tissage simultané d'enregistrements sonores de la nature, de la vie sauvage, d'animaux et d'autres sons fétiches qui se connectent à d'autres dimensions et les attirent, superposés à la musique des guitares électriques. Bonjour Nina Canal.
Tu es à Montpellier aujourd'hui.
Voilà, oui, c'est vrai.
Tu viens des États-Unis?
Oui, je vis actuellement, j'habite aux États-Unis, absolument. Nord de San Francisco, pas très loin de la mer, mais dans une partie qui rassemble un petit peu le Provence.
Ok.
La Provence, oui, oui, oui.
Alors tu es musicienne, mais aussi peintre et... Peut-être tu peux nous parler un peu de ton parcours. On te connaît d'un groupe qui est très connu, qui s'appelle Hat, donc U-T, écrit comme le dos.
C'est ça, oui.
Pour,
en solfège.
Voilà.
Oui.
C'est un groupe No Wave, des années...
On a commencé 78. Enfin, tout au bout de 78, à New York. C'était le commencement. On fait partie d'une scène qui a déjà commencé en 76-77 à New York, juste après le punk et tout ça, mais tout à fait différente que le punk. Donc, No Wave, Noise, c'est le nom qui était donné à ce scène, mais il n'y a pas un nom qui vraiment sonne bien, si tu veux, qui décrit vraiment qu'est-ce qui s'avait passé, parce que c'était très, très, très différent. Tous les groupes, on était vraiment beaucoup des gens différents. En fait, c'était la danse, la film, la musique et l'art, bien sûr. Et moi, j'ai grandi à Londres, en Angleterre, et je suis venue depuis avoir fait les études des beaux-arts. J'ai fait mon diplôme dans un collège très ouvert à Londres. Et j'avais fait les performances, un petit peu des films, à la fois la peinture, etc., etc. Et quand j'avais fini, je voulais partir de Londres parce que ça ne m'a pas trop l'ambiance et tout, malgré le fait que c'était une ville assez pointue au niveau des arts et tout ça, les années 60, les années 70. Oui, une grande ville importante. Mais je voulais partir, donc j'avais décidé d'aller à New York. J'avais eu la connaissance d'une seule personne, mon meilleur ami, en fait. On a se rencontré au collège au départ, mais il avait eu 2 ans plus que moi. Et donc, j'arrive à New York et il était en train de former un groupe avec Rhys Chatham et une autre fille en batterie qui s'appelait Heidi... comment s'appelle l'actrice, enfin bref, on a, ils avaient s'appelé le groupe Le Gynécologistes. Et donc, on m'a dit, bah, tiens, tu vas acheter une guitare et tu vas venir jouer guitare avec nous. J'ai dit, d'accord. Et on a juste commencé comme ça. C'était punk attitude. Et je n'ai jamais vraiment joué un instrument ou autre, en fait. Je n'avais pas fait les études de musique sérieusement du tout. Mais j'avais adoré le mouvement et la musique à la fois. Et donc, on a juste commencé de jouer ensemble. Après, on a commencé d'avoir quelques petits concerts. Et à la fois, il y a une sorte de groupe de jeunes qui est venu depuis le monde entier, en fait. Plein de gens différents. Moi, j'ai eu 25 ans, 24, quand j'avais arrivé à New York, 25. Mais plein de gens à peu près mon âge, et même quelques-uns plus jeunes ou plus âgés aussi, qui sont venus depuis les pays différents, à New York, à Manhattan. Et ça s'est formé, ce type de scène, qui était hyper expérimental dans tous les sens. Dans tous les sens. On a cassé les règles partout au niveau de c'est quoi musique, c'est quoi un groupe même. Les gens, ils avaient joué toutes seules. Enfin, Boris Please Band, on a eu un mec qui était sublime. Je ne peux pas décrire exactement ce qu'il a fait, mais il s'appelait Boris Please Band. On a eu un autre mec qui s'appelait Zev, qui a joué juste comme les sons avec les grands morceaux, du métal en fait. Il a fait du son avec du métal. Et puis plein de groupes, Lydia Lunch, mais après Mars, après DNA, il commençait de faire la musique rock d'une autre manière. C'était plutôt une mélange, pas du tout juste le rythme très fort et fort comme punk, vraiment différent. C'était une sorte de mélange de jazz, mélangé avec du world, mélangé avec peut-être même du folk. C'est un peu difficile, c'est pour ça il n'y a pas un nom qui vraiment explique cette scène-là. Il faut avoir fait partie, si tu veux être là, sur place, pour expérimenter cette groupe.
Et qu'est-ce qui vous hâte alors?
Donc après, j'étais pas tout contente avec le gynécologiste, so j'avais quitté. Et un ami m'a présenté deux filles qui s'appellent Jackie Ham et Sally Young. Et on a discuté un peu, on se comprenait très bien, on était en accord sur notre attitude, sur la musique, etc. On a commencé à jouer et ça marchait hyper bien, quoi. C'était comme de la magie, tu vois. On s'entendait très très bien musicalement. Et donc on a commencé, on n'a aucun intérêt de faire les copies, de faire les... comment s'appelle ça quand tu fais une chanson qui existe?
Covers.
Les covers, non, pas du tout les covers, interdits, pas intéressant du tout. Donc, tous notre musique originale, et puis on a décidé depuis le départ d'être très égal, si tu veux. Pas de star, tu vois, pas de lead guitariste, pas de lead singer, etc. Non, on a décidé de jouer tous les instruments d'une manière très différente. Et puis, ça pose les petites... c'est pas évident, mais c'est ça, on a fait comme ça. Donc, on a commencé chacun, c'était très libre aussi, chacun a eu soit une idée de la musique, ou même juste les paroles, ou un concept, ben, on a commencé à faire un morceau comme ça. Et puis, juste répète beaucoup, on a vraiment bossé dur pour perfecter les idées. Et puis, ça a pris le temps, mais finalement, on a eu les chansons. Et la musique est très forte. Mais finalement, on est parti de New York pour Londres. Pas par hasard exactement, mais ça se fait d'une manière un peu bordélique, petit à petit. parce que c'était beaucoup plus facile à sortir les disques. C'était presque impossible à New York d'avoir un disque qui sorte, qui est publié. En fait, on était en studio avec le mec qui a fait le premier disque de Lydia et aussi de, je pense, DNA. Mais il est parti en vitesse avec les problèmes. Donc, on n'a jamais eu ces nouvelles depuis. Mais on a fini l'album dans le studio. On était en train de bosser, on travaillait sur le couvert et tous les autres. Mais ça ne se fait pas. Donc, finalement, on était allé à Londres et puis on a eu beaucoup plus de possibilités. Et après, on était pris par le label Blast First, qui était en fait une sous-label de le plus grand label Mute. Et Blast First, au départ, c'était le label qui sortait les disques de Sonic Youth au départ. Donc ça, c'était début des années 80, 83 peut-être, ou deux, je ne me rappelle plus. Mais... Donc, on était amis avec Sonic Youth, en fait, à New York. Pendant cette scène, tout le monde connaissait tout le monde. C'était vraiment comme ça. C'était tous downtown. On se croisait les gens dans la rue. Tu peux sortir n'importe quelle heure de nuit ou jour. Tu vas voir tes amis ou les gens que tu connais. Dans notre scène-là, dans le, tu vois. Et puis, donc, c'était vraiment comme ça. Et après, voilà, quoi, on a sorti les disques un par un. Mais la première chose qu'on a sorti, on a eu la chance de faire la connaissance d'un mec qui est mort. Malheureusement, il est mort depuis 2000 ou 2001, qui s'appelle Scott Peering. Il a fait plutôt de radio pour les groupes. Et il était fan de, très très fan de musique expérimentale et il a eu une appareil d'enregistrement de cassette. Je pense que c'était un Iowa ou quelque chose comme ça, mais très haut de gamme, le plus haut de gamme que tu pouvais trouver à l'époque. Et il a emporté ça, il a fait les très bonnes recordings et puis il a fait une de notre... d'une concert, peut-être en Brixton, je ne rappelle plus exact. Non, oui, le venue, je pense. Le venue, c'est un venue, mais il s'appelle Le Venue à Londres. Et puis, en fait, on a sorti la cassette. C'était la première chose qu'on a sorti. Après, on a enregistré notre premier EP. Et puis, c'était refait par Blast First. Finalement. Et après, ils avaient mis au studio pour les prochaines deux albums. Et après, on a fait une qui était les morceaux live. C'était un mélange des morceaux live. Et voilà.
Vous jouiez où? Alors à Londres, à New York, en live?
Plutôt, oui, Londres, bien sûr. Mais en Europe, on n'a pas... Oui, on a retourné au départ. Bien sûr, on a joué à New York, mais pas beaucoup parce qu'on a juste commencé, en fait. On a à peine commencé en 1979, en fait. Et donc, on est parti de New York en 81. Ouais. Donc, et ça a pris un peu le temps, mais on a déjà une sorte de, je ne suis pas sûr en français, un sorte de corps, a body of work. On a eu certains morceaux déjà bien définis, bien, tu vois, et on était prêts à faire quelque chose, en fait, en partant de New York, mais après, on a commencé de créer d'autres morceaux, d'autres albums, etc. Ouais.
Et vous jouiez live à Londres?
Donc live, oui. Plutôt à Londres, ils ont les pubs, ils ont les petits endroits, pas très gros quand même, avec de la musique live régulièrement. Et donc, à cette époque-là, c'était riche en groupes différents, en fait, très intéressant. Mais on a joué avec les groupes très intéressants. On a déjà eu la chance de voir The Fall à New York. En fait, The Fall, c'était... un petit peu l'inspiration des deux autres filles de absolument aller à Londres pour sortir les disques parce que on était fans de leur musique et on a vu que eux ils sortent les disques pas mal. Et puis bah Scott en fait il a fait la position de road manager pendant le Fall a fait son tournée. Il s'occupe de toutes les choses pratiques, tu vois, pour le tournage. Et donc, on a se rencontré parce qu'on voulait faire du contact avec la groupe. Et c'est lui, il n'était pas leur manager, mais il a fait il a nous mis en contact, en fait. Mais quand je suis allée après à Londres pour autre chose, on a se reconnecté. Et donc, on a eu une relation type avec le Fall assez proche, quoi. On a joué avec eux plusieurs fois dans plusieurs endroits en Angleterre parce qu'eux, ils étaient toujours à Manchester à côté, au nord. Nous, on était à Londres. Après, on a joué dans les pubs. Il y a un pub dans le west, nord-ouest de Londres. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Et en fait, Nick Cave, la groupe au départ de Nick Cave, The Birthday Party, ils avaient joué là régulièrement pendant, je ne sais pas combien des années, peut-être juste un an ou deux. Et en fait, on a joué, on a été la première groupe pour eux. Et en fait, ils avaient devenu très fans, donc on a fait ça plusieurs fois. Mais c'était juste, le birthday party était en train d'être beaucoup plus grande, être très connue. Donc nous, on a joué, je pense, la dernière fois, ils avaient joué dans un venue assez petit, en fait. Après, ils avaient joué que des beaucoup plus grandes venues, etc. Après, on a joué aussi avec... le nom, ça m'échappe un petit peu. C'est en fait le frère de le guitariste en U2, de Prunes, de... Something Prunes, Virgin Prunes, je pense, non? D'accord. Donc, on a joué assez souvent avec eux. C'était un super groupe. Le chanteur était... Enfin, bref. Et plein d'autres, en fait. Mais...
Et comment tu décrirais votre musique?
Comment on a écrit...
Comment tu les décrirais? Comment tu peux décrire... Alors, c'est deux guitares, trois guitares, c'est...
De hâte en particulier, tu
oui,
dis
bah, oui, pas, oui, de hâte, oui, mais oui, particulièrement. Oui.
Bah, hâte. Moi, ça m'arrive d'avoir un petit nom qui, en fait, loud weird music. Parce que c'est pas... du rock comme les pensent quand la plupart des gens ils pensent en rock un peu le 70s, c'était pas du tout ça, c'était tellement loud, il faut jouer loud, il faut avoir live un son forte pour nous en tout cas et plein d'autres. Et donc voilà quoi, donc No Wave ça dit rien à voir, hein. Puis Noise non plus, parce que Noise il y a d'autres musiques plutôt électroniques, un peu juste les petits sons, jouant avec, ça peut être très bien quand même, mais pour moi ça donne plutôt cette idée là, mais nous on n'était pas ça.
comment on pourrait encore définir mieux la loud wired music?
Weird. Donc weird. C'est autre, weird, ça veut dire autre, pas le norme. Voilà. Et donc, non, parce que nous, en fait, on était trois femmes, mais on n'a jamais eu l'idée d'avoir un groupe des femmes. Ce n'était pas un groupe de filles ou des femmes. Pour nous, on était musiciens. Tu vois? Et donc, on n'était pas d'accord avec le concept de, oui, vous avez formé un groupe des femmes. Non, c'était par hasard. On est trois femmes, si tu veux. Donc, notre musique aussi, c'est assez fort. En musique, le fait que c'est forte au niveau de loud, mais émotionnellement aussi. Émotionnellement, il y a beaucoup d'émotions, ou bien les idées un peu fortes aussi. Tu vois, c'était pas soft, c'était pas smiley. On n'était pas sex toys sur scène non plus. Ça ne nous intéresse pas du tout. On était musiciens. On était très sérieux. C'était très, très sérieux. On a travaillé hyper dur. On a fait les répètes, je ne rappelle plus, au moins 3 fois par semaine, je pense, pour quelques heures à la fois. Et tu vois, on a loué à New York, on a eu notre propre salle de répète, on a loué mensuellement, tu vois, pour avoir l'opportunité de pour le maximum. Donc, voilà.
Alors, la musique, loud, weird music.
Yes.
Alors,
bah, ça peut dire plein de choses différentes, mais ça commence à approcher le fait que c'est musique loud, c'est un peu hors de nom, mais c'est musique.
Donc loud, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des amplis, plusieurs amplis,
oui.
Au maximum
Pas nécessairement maximum, mais loud. Parce que quand on a 2 guitares qui jouent fortes comme ça, en fait, c'est difficile de séparer. Pour la personne qui fait le son live, ça présente les problèmes, tu sais. On était toujours dire, non, il faut baisser le volume, il faut baisser. On a dit, non, on ne veut pas baisser le volume. Il faut trouver les solutions, hein, parce que aussi les vocales, tu vois. Mais certainement, c'était un peu sexiste dans le sens que, ah, c'est les filles, il faut les jouer un peu par fort, quoi. Mais on a eu plein d'autres groupes qui font la même chose. Donc
ouais. Fort au point de vue sonore, oui. Mais aussi émotionnellement, oui. Et au point de vue des idées aussi. Oui. Donc, c'était comment ça se construisait? C'était des chants, des chansons, des songs ou,
Oui, mais c'est, moi, j'utilise le mot organique, mais il y a les gens qui me disent que ce n'est pas très clair. Ça veut dire que, comme j'avais dit au départ, quelqu'un peut arriver avec soit un petit morceau de musique, même juste quelques notes, je ne sais pas, ou bien les paroles, ou bien juste un concept vague.
Par exemple,
je ne peux même pas penser, mais peu importe en fait, vraiment peu importe. Et puis on a juste commencé comme ça, en répétition, on a juste commencé de créer, on a choisi un instrument parce que le fait qu'on a changé les instruments, c'était fixé par les chansons, ce n'est pas par hasard à chaque fois. Chaque chanson, moi j'ai joué soit la basse, la guitare, et ou pas chanter à la fois, et d'autres chansons, le batterie, quoi. Donc, selon le chanson, on a eu notre rôle fixe, mais ça a pris le temps. Donc, on a expérimenté et trouvé une sorte de départ. Après, on a travaillé dessus, et ça a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai dit on a beaucoup travaillé, mais on a créé les chansons comme ça. Sans avoir, en fait, Sally, elle a fait les études de opéra un petit peu, donc elle était la seule qui peuvent, je pense qu'elle lire la musique, mais moi et Jackie, pas du tout. Donc on a fait tout ça par feeling.
Et les paroles, les chansons, alors, c'était quoi?
Jackie et Sally se considèrent elles-mêmes les écrivains, moi, non, du tout, vraiment, mais... quand même, j'avais écrit les chansons, j'avais mis les paroles, et puis pour moi c'est un peu dans la flou là maintenant parce que c'est assez loin. Comment j'avais eu les idées et tout, mais voilà quoi.
Et ouais, ok. Mm. Bon, on va écouter un peu.
Thank you.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvel invité. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme, une émission par Nadia Lichtig.